Bonjour chers auditeurs de Radio Espérance. Nous allons poursuivre aujourd'hui l'émission que nous avons commencée la semaine dernière sur la fête de la miséricorde divine. Vous avez vu combien cette fête est importante aux yeux du Seigneur et combien de grâces il veut nous donner à l'occasion de cette fête. Mais il faut toujours beaucoup de temps pour instituer une nouvelle fête dans l'Église. Cela est compréhensible car l'Église doit prendre ses précautions. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Saint Pierre nous dit dans sa deuxième lettre au chapitre 3 verset 8 que pour le Seigneur est un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Il a fallu attendre plus de 60 ans pour que cette fête de la miséricorde divine soit instituée. Sainte Faustine insistait beaucoup auprès du bienheureux Père Sopočko afin qu'il s'occupe de l'institution de cette fête. Elle-même envisageait de se rendre à Rome pour demander au Saint-Père l'institution de la fête de la miséricorde. Elle en fait part le 5 juillet 1936 au Père Sopočko dans une lettre. Le Père Sopočko lui répond ainsi.
La fête de la miséricorde divine que le Seigneur Jésus exige par votre intermédiaire sera instituée sans que vous ayez à vous rendre chez le Saint-Père. D'ailleurs, votre intervention personnelle à Rome n'avancerait pas les choses. Au contraire, elle pourrait même les entraver. Il faut d'abord préparer le terrain, sensibiliser l'opinion à la nécessité de cette fête, préparer une demande collective de la part de toute la nation, mais surtout de nos très vénérables cardinaux, archevêques et évêques, l'institution de la fête ne sera alors plus qu'une question de temps.
Et c'est dans cette intention que le bienheureux Père Sopočko a fait publier en 1936 la brochure « La miséricorde divine ». Il l'a adressée aux participants du premier synode plénier à Częstochowa. Le synode était présidé par le légat du pape, Monseigneur Marmaggi. Il a probablement transmis dans son rapport au Saint-Siège la question de l'institution de la fête de la miséricorde, car le 29 avril 1937, Sainte Faustine écrit dans le Petit Journal.
Le Seigneur m'a fait connaître les querelles qui ont eu lieu au Vatican à propos de cette fête. Le dignitaire Pacelli y a beaucoup travaillé.
Il y est bien sûr question du futur pape Pie XII, qui, à l'époque, était secrétaire d'État. Sainte Faustine possédait le don de connaître à distance certaines choses et certaines situations. Elle pouvait donc également, grâce à une vision intérieure, connaître les entretiens qui s'étaient nés au Vatican au sujet de la fête de la miséricorde divine. Malheureusement, l'intervention du bienheureux Père Sopočko n'a pas donné de résultat. On lui a donné comme argument le fait que Rome interdisait l'introduction des nouveaux cultes. En 1937, à l'occasion de la fête de la miséricorde divine, le bienheureux Michel Sopočko a fait publier quelques articles sur la miséricorde divine, dont « La miséricorde divine dans la liturgie ». Il explique que le culte de la miséricorde ne représente rien de nouveau puisque tous les livres liturgiques parlent souvent de cet attribut de Dieu. Dans son journal, il reconnaît lui-même.
Il y a des vérités dont on entend souvent parler, mais que l'on ne comprend pas. Il en a été de même pour moi en ce qui concerne la vérité sur la miséricorde divine. J'ai tant de fois mentionné cette vérité dans mes homélies. Je l'ai souvent répété dans les prières de l'Église, particulièrement dans les psaumes, et pourtant je ne comprenais pas la signification de cette vérité, je n'entrais pas dans son contenu, à savoir que la miséricorde divine était un attribut suprême de l'action de Dieu à l'extérieur. Il a fallu qu'une simple religieuse, sœur Faustine, guidée par une intuition, m'en parle. Tout au début, j'ai douté. Je me suis posé des questions, et ce n'est que quelques années plus tard que j'ai compris l'importance de cette œuvre et que j'étais convaincu de l'efficacité de ce culte vivifiant et ancien, certes, mais négligé et nécessitant donc d'être renouvelé à notre époque. C'est avec une grande joie que j'ai trouvé le terme « miséricorde » chez saint Fulgence, saint Ildefonse et surtout chez saint Thomas d'Aquin et saint Augustin. Ce dernier, en expliquant les psaumes, s'est longuement attardé sur la miséricorde divine qu'il appelait le plus grand attribut de Dieu.
Le bienheureux père Sopočko considérait qu'il fallait que la miséricorde divine soit honorée par une fête spéciale. Durant le congrès marial à Vilnius en 1937, le père Sopočko a fait une proposition pour demander au Vatican l'institution de la fête de la miséricorde le deuxième dimanche de Pâques. Il en a parlé au nonce apostolique présent à Vilnius à ce moment-là. Cela n'a pas donné non plus beaucoup de résultats, mais le père Sopočko est inflexible, il ne démissionne pas durant l'avant 1937, il prêche à la radio sur la miséricorde divine. Très probablement, suite à toutes ces démarches, sainte Faustine a une autre vision concernant l'institution de la fête de la miséricorde divine. Elle voit beaucoup d'évêques et un laïc qui réfléchissent sur cette fête, écoutant-la.
Le Seigneur m'a fait savoir également que quantité d'évêques réfléchissaient à cette fête, ainsi qu'un laïc. Les uns enthousiasmés de l'œuvre de Dieu, les autres incrédules.
Le 21 février 1938, elle écrit au bienheureux père Sopočko.
Pour ce qui est de cette fête, je ne doute pas un instant qu'elle soit manifestement la volonté divine. Dieu a initié son œuvre par notre intermédiaire. Il ne nous appartient pas de chercher à savoir qui l'achèvera, mais il nous faut maintenant faire notre possible. Rien de plus.
En 1938, l'année de sa mort, sainte Faustine s'offre à Dieu pour que, entre autres, l'œuvre de la miséricorde se répande dans le monde entier et pour que la fête de la miséricorde soit instituée. Elle écrit dans le petit journal.
Je me suis offerte au Seigneur à nouveau aujourd'hui en holocauste pour les pécheurs. Mon Jésus, si la fin de ma vie approche déjà, je te supplie, en toute humilité, accepte ma mort en union avec toi, comme l'holocauste que je t'offre, aujourd'hui, en toute lucidité et avec toute ma volonté, dans un triple but. Premièrement, pour que l'œuvre de ta miséricorde se répande dans le monde entier et que cette fête de la miséricorde divine soit approuvée et célébrer. Deuxièmement, pour que les pécheurs recourent à ta miséricorde, éprouvant les inexprimables effets de cette miséricorde, et surtout les âmes agonisantes. Troisièmement, pour que la totalité de l'œuvre de ta miséricorde se réalise d'après tes désirs, et aussi pour qu'une certaine personne qui dirige cette œuvre accepte, très miséricordieux Jésus, cette pauvre offrande que je te fais aujourd'hui, en présence du ciel et de la terre. Que ton très saint cœur, plein de miséricorde, complète ce qui manque à mon offrande, et qu'il l'offre à ton Père, pour la conversion des pécheurs. J'ai soif des âmes, ô Christ.
Quelques mois plus tard, elle meurt à Cracovie sans avoir vu la fête de la miséricorde divine instituée. Le bienheureux père Sopočko va continuer l'œuvre de la miséricorde, encouragé par sainte Faustine, qui lui laisse une sorte de testament. Il écrit dans son journal ce qu'elle lui a dit avant de mourir.
Je ne dois pas interrompre la propagation du culte de la miséricorde divine. Et cela concerne particulièrement l'établissement de la fête le premier dimanche après Pâques. Je ne devrais jamais dire en avoir fait assez. Je ne devrais jamais abandonner, même si les plus grandes difficultés s'étaient accumulées et même s'il semblait que Dieu lui-même ne le voulait pas. Car la profondeur de la miséricorde divine est inépuisable, et notre vie n'est pas suffisante pour la glorifier.
Et c'est cela qui permettra au Père Sopočko de faire face à toutes les difficultés qui ne manqueront pas de se présenter. Peu après la mort de Sainte Faustine, il se rend à Częstochowa pour la conférence de l'épiscopat de Pologne. Il remet dans les mains des évêques un dossier dans lequel il donne des arguments pour instituer la fête de la miséricorde. Il parle des fruits que cette fête pourrait apporter. Il donne dans ce travail de fondement théologique sans évoquer les révélations de Sainte Faustine. En avril 1939, il se rend à Rome, mais sans aucun résultat. Encouragé par le primat de Pologne, le cardinal Hland, le père Sopočko écrit un traité théologique de la miséricorde divine et de l'institution de sa fête. Ce traité est écrit en latin et dans ce traité, le père Sopočko dit l'importance et la nécessité de cette fête pour l'humanité. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce traité est diffusé dans le monde entier. De plus en plus de personnes commencent à considérer qu'il est important d'instituer une fête pour honorer la miséricorde divine. En 1947, le père Sopočko publie un autre travail pour la fête du Sauveur miséricordieux. Dans ce travail, il désigne le dimanche in albis comme le jour le plus approprié pour cette fête. En 1948, grâce à toutes les démarches et le travail du bienheureux père Sopočko, les professeurs de théologie ont présenté une demande à Rome pour instituer la fête de la miséricorde divine. Et déjà en 1951, le cardinal Sapieha, à l'époque archevêque de Cracovie, autorise la fête de la miséricorde dans le diocèse de Cracovie. Et comme pour la fête du Sacré-Cœur, le diocèse de Cracovie est le premier à célébrer cette fête. C'est de ce diocèse que viendra plus tard le pape Jean-Paul II. Vous le savez, il jouera un rôle important dans la diffusion du message de la miséricorde divine. Malheureusement, le développement du culte de la miséricorde divine sera interrompu par le décret du Saint-Office du 19 novembre 1958, adressé à tous les évêques polonais. Nous en avons déjà parlé avec le père Jean-Emmanuel au début de ces émissions. Ce décret a été publié dans Osservatore Romano le 7 mars 1959. Le père Sopočko et tous ceux qui y tenaient seront obligés de donner des bases théologiques solides pour démontrer l'importance de l'institution de cette fête. Pourquoi le Saint-Office a-t-il interdit la propagation du message de la miséricorde ? Premièrement, la traduction du petit journal parvenu au Saint-Office contenait beaucoup d'erreurs. La sœur censée recopier à la machine le petit journal a changé certaines définitions et a même, par inadvertance, omis les parties importantes. Deuxièmement, de nombreuses publications concernant le message de la miséricorde divine éditées en Pologne et à l'étranger se basaient le plus souvent exclusivement sur les révélations de Sainte Faustine, souvent mal interprétées ou même adaptées aux besoins des propagateurs. Ces publications omettaient l'étude théologique de la miséricorde divine. Troisièmement, on disait que le culte de la miséricorde divine était une forme de nationalisme. Cela concernait surtout les tableaux de Jésus miséricordieux. Les rayons pâles et rouges sur le tableau étaient interprétés comme les couleurs du drapeau polonais. Puis, il y a eu les fausses accusations soulevées contre le père Sopočko, dont nous a parlé déjà le père Jean-Emmanuel. Vous vous rappelez, un prêtre a fait traduire un livret du père Sopočko en anglais et en italien, et dans la version italienne, il a ajouté que le cardinal Hland, sur son lit de mort, encourageait les fidèles à propager le message de la miséricorde divine. C'était faux, mais on croyait que c'était le père Sopočko qui en était l'auteur. Il a fallu plusieurs années pour que le père Sopočko soit complètement lavé de toutes ces accusations, bien que le prêtre qui était à l'origine de ces accusations lui ait demandé pardon, nous le verrons tout à l'heure. Le décret du Saint-Office ordonnait donc de limiter le culte de la miséricorde divine. Le père Jean-Emmanuel nous l'a lu. Ce décret interdisait entre autres l'institution de la fête de la miséricorde divine. Il demandait de retirer les prières et les images venant des révélations de Sœur Faustine et ordonnait de donner au père Sopočko, gravissimum monitum, une réprimande sévère afin qu'il ne propage pas les informations sur ces soi-disant révélations de Sœur Faustine. Ainsi s'est réalisée la prophétie de Sainte Faustine qu'elle avait écrite 23 ans auparavant dans le Petit Journal.
Un jour viendra où cette œuvre tant recommandée par Dieu paraîtra presque totalement détruite. Et alors, Dieu commencera à agir avec une grande force qui témoignera de sa vérité. Cette œuvre donnera une nouvelle splendeur à l'Église, bien qu'elle y existe depuis longtemps déjà. Mais avant cela, ton âme sera abreuvée d'amertume devant l'anéantissement de tes efforts. Cependant, cet anéantissement ne sera qu'apparent, car Dieu ne change pas ce qu'il a une fois décidé. Mais bien que l'anéantissement ne soit qu'apparent, pourtant, la souffrance sera bien réelle. Quand cela arrivera-t-il? Je ne le sais pas. Combien de temps cela durera-t-il? Je l'ignore.
Le bienheureux père Sopočko s'attendait donc à tout cela. Il a d'ailleurs écrit:
j'ai été content que soit enfin arrivé ce qu'avait prédit Sœur Faustine.
Il avait confiance qu'un jour la volonté de Dieu s'accomplirait. Dans une lettre aux sœurs de Jésus miséricordieux, il écrit:
je suis absolument convaincu que le culte de la divine miséricorde, basé exclusivement sur l'écriture sainte, sur la tradition et la liturgie, purifié des ajouts humains, non seulement ne diminuera pas, mais s'accroîtra, doublera, augmentera et s'approfondira. Quant à l'avenir, je suis complètement tranquille parce que Sœur Faustine a prédit tout cela.
Et pendant 20 ans, il était interdit de parler du message de la miséricorde divine. Mais malgré cela, le bienheureux père Sopočko devait sentir qu'une nouvelle période allait s'ouvrir, car il a été convoqué au procès de béatification de Sœur Faustine, ouvert dans les années 60. C'est d'ailleurs au cours de ce procès que le père, à l'origine de fausses accusations contre le père Sopočko, a avoué toute la vérité. Écoutons-le.
Toute cette affaire pesait sur ma conscience, même si je ne connaissais pas toutes ses conséquences. J'ignorais, par exemple, que le père Sopočko ait reçu en 1958 du Saint-Office « Gravissimum Monitum » à cause de sa participation à cette dévotion et aussi à la propagation de la prière attribuée au cardinal Rolande, qui effectivement n'en était pas l'auteur. En réalité, si quelqu'un méritait ce gravissimum monitum, c'était moi, car je l'ai fait de mon propre chef et je n'ai pas demandé de conseil au père Sopočko. Pendant longtemps, le père Sopočko ne cherchait pas à savoir qui avait mis cette prière dans le livret. En 1965, Monseigneur Karol Wojtyla, l'archevêque de Cracovie, avec l'autorisation du cardinal Ottaviani, préfet du Saint-Office, a ouvert le procès de béatification de Sœur Faustine au tribunal de Cracovie. Parmi les témoins se trouvait le père Sopočko. C'est là que l'on a parlé de l'affaire de Gravissimum Monitum infligée au père Sopočko. Durant le procès, la crédibilité du père Sopočko était mise en doute. Alors j'ai avoué que c'était moi qui avais fait mettre dans ce livret la prière pour la béatification de Sœur Faustine, soi-disant composée par le cardinal Rolande. J'ai avoué toute la vérité et pris toute la responsabilité sur moi, en lavant de tout soupçon le père Sopotchko.
Le bienheureux père Sopotchko vivait intensément le Concile Vatican II, qui était pour lui une confirmation du message de la miséricorde. À la fin de sa vie, il était préoccupé par la fête de la miséricorde. Les démarches entreprises pour instituer cette fête ne donnaient pas de résultats. Les évêques auxquels il avait demandé un soutien le refusaient et l'un d'eux l'a carrément mis à la porte. Le bienheureux père Sopotchko raconte.
S'il s'agissait de moi, je me fâcherais peut-être, mais là, il s'agissait de l'œuvre de la miséricorde, donc cette fois-ci, je suis rentré par la fenêtre.
Il n'a pas été permis au père Sopotchko de voir les fruits de toutes ces démarches. Il partait de ce monde convaincu que la mission de la miséricorde que le Seigneur Jésus a transmise à Sainte Faustine, qu'il devait aider ici sur terre, n'était pas terminée. Il meurt 3 ans avant le retrait de la notification du Saint-Office en 1978. Donc il est mort en 1975. L'année 1978 a été un vrai tournant pour le culte de la miséricorde divine. Le Vatican a sorti une nouvelle notification qui expliquait que les dispositions de la notification de 1959 n'étaient plus obligatoires. Le cardinal Seppert, préfet de la Sainte Congrégation pour la science et pour la foi, a expliqué que cette disposition a mûri à la lumière d'une documentation originale ainsi qu'à la suite de l'intervention de l'archevêque de Cracovie, le cardinal Karol Wojtyła. Il s'agit bien là du pape Jean-Paul II. Avant de revenir de la troisième session de Vatican II, le cardinal Wojtyła a parlé avec le cardinal Ottaviani en lui demandant si la disposition de 1959 excluait le procès de béatification de sœur Faustine et spécialement le procès d'information dans le diocèse. Le cardinal Ottaviani a non seulement donné la permission, mais a ordonné d'ouvrir le procès de sœur Faustine et le plus tôt possible, tant que les témoins étaient encore vivants. Le cardinal Wojtyła a demandé également à un théologien de réaliser une analyse théologique du petit journal de sainte Faustine. Ce théologien, au début, il était un peu méfiant, il n'était pas très convaincu. Finalement, il a accepté, il a lu très vite et à la fin, il a dit que cette œuvre était magnifique. Son travail a été publié par la Congrégation de la cause des saints en 1980. La même année, le 30 novembre, le pape Jean-Paul II a fait publier l'encyclique « Dives in Misericordia ». L'année suivante, en 1981, est sortie la première édition du petit journal de Sainte Faustine. La préface de cette édition, en italien, a été écrite par Monseigneur Descours, ami et collaborateur de Jean-Paul II. Il recommande dans cette préface au lecteur le petit journal comme une œuvre d'une grande valeur, non seulement pour l'Église de Pologne, mais pour l'Église universelle. Qu'en est-il avec la fête de la miséricorde divine après le retrait de la notification? Le retrait de la notification a ouvert une nouvelle étape dans les démarches entreprises pour l'institution de cette fête. Le 23 mars 1993, les évêques polonais présentent une demande au pape Jean-Paul II pour instituer la fête de la miséricorde. Le 23 janvier 1995 sort le décret de la Congrégation du culte divin et de la discipline des sacrements qui autorise la célébration de la fête de la miséricorde sur le territoire polonais. Ensuite, la béatification et la canonisation de Sainte Faustine ont également joué un grand rôle. C'est la guérison miraculeuse de Maureen Digan américaine attribuée à Sainte Faustine, qui a conduit à la béatification de Sainte Faustine le 18 avril 1993. Quelques années plus tard, a eu lieu le deuxième miracle nécessaire pour la canonisation, c'est la guérison d'un prêtre. En effet, le 5 octobre 1999, le père Ronald Petel, aux États-Unis, un grand apôtre de la miséricorde, préside les célébrations en l'honneur de la miséricorde divine, en la fête de Sainte Faustine. Il souffre d'une maladie grave du cœur et il doit être opéré. Le 5 octobre, après les célébrations, il ressent quelque chose d'anormal. Son médecin, surpris en voyant l'électrocardiogramme, lui dit « Quelqu'un a intercédé pour vous. Votre cœur est tout à fait normal. » C'était bien sûr Sainte Faustine qui a intercédé pour ce prêtre. Le pape Jean-Paul II, non par hasard, a choisi pour la canonisation comme pour la béatification, le deuxième dimanche de Pâques, pour la canonisation donc de Sainte Faustine. C'était le 30 avril 2000. Durant l'homélie de la canonisation, le pape a proclamé que dorénavant, ce dimanche prendrait le nom du dimanche de la divine miséricorde. Ainsi a été réalisée la demande du Seigneur que soit instituée la fête de la miséricorde divine le premier dimanche après Pâques. Et le couronnement de tout cela sera cette année la canonisation de Jean-Paul II le 27 avril, le dimanche de la miséricorde divine. Pourquoi cette fête est-elle si importante ? L'importance de cette fête se mesure aux grâces nombreuses et exceptionnelles que le Seigneur veut accorder ce jour-là, rappelons-les.
En ce jour, je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. Toute âme qui s'approchera de la confession et de la sainte communion recevra le pardon complet de tous ses péchés et la remise de peines qui sont la conséquence de ses péchés. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate.
Voyez, il s'agit là du pardon de tous les péchés. C'est la plus grande grâce. Elle est immense. Les pécheurs les plus endurcis, s'ils se convertissent ce jour-là, peuvent bénéficier de ces grâces. Il est bien sûr possible de se confesser dans le jour qui précède la fête de la miséricorde divine, puisque les prêtres ne sont pas assez nombreux pour confesser toutes les personnes le dimanche. En revanche, il faut communier le jour même de la fête dans l'attitude de confiance en la miséricorde divine. Vous pouvez inviter à cette fête des personnes que vous connaissez, qui sont tièdes, qui pratiquent peu le sacrement. Il est évident que si le tableau de Jésus miséricordieux n'est pas encore exposé dans votre paroisse, c'est le jour où il faut l'exposer, en accord bien sûr avec votre curé. Pensez aussi à proposer dans vos paroisses une adoration du Très Saint Sacrement, au cours de laquelle vous pouvez prier le chapelet et les litanies à la miséricorde divine. Et bien sûr, n'oublions pas de rester en silence dans un cœur à cœur avec Jésus. Cette mission arrive à son terme, rendant grâce à Dieu pour cette fête de la miséricorde et pour les trois apôtres de sa miséricorde qui sont Sainte Faustine, le bienheureux père Michel Sopotchko et le bienheureux, bientôt saint Jean-Paul II. La veille de la fête de la miséricorde, le samedi 26 avril, j'aurai à nouveau la joie d'accueillir le père Henri-Marie Montin qui nous expliquera davantage pourquoi cette fête de la miséricorde a lieu le deuxième dimanche de Pâques. La semaine prochaine, nous allons parler du chapelet à la miséricorde divine. Il ne me reste qu'à vous dire au revoir. Que le Seigneur vous bénisse dans sa grande miséricorde.
Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi.